L'influence du langage, bien sûr qu'il y a une influence du langage. Alors d'abord, c'est marqué « un lève-toi repelle à Satan ». Il ne faut pas ouvrir la bouche au, il ne faut pas dire son nom la nuit, c'est pas bien, au, ça, en français, S-A-T-A et puis N. D'accord ? C'est quoi ? C'est les forces négatives qui entendent. Mon Ravuta, avec qui j'ai étudié 15 ans de ma vie, étudiait dans sa jeunesse Yeshiva Tanegev. Yeshiva Tanegev, c'est une Yeshiva qui est à Netivot, qui habite à Netivot, à 200-300 mètres de la Yeshiva, Baba Salé. Et mon Chavruta, il s'appelait Avishai, il avait une Chavruta à l'époque, donc un copain d'études. Ce copain d'études avait une voiture. À l'époque à Netivot, il y avait combien de voitures? Peut-être 5 ou 10 voitures à tout casser, d'accord? Baba Salé, de temps en temps, demandait à, on va l'appeler Moshe, d'accord, le Chavruta de Avishai, nous on a Moshe, de lui rendre service, de le prendre par-ci, de le prendre par-là. Un beau jour, Moshe revient et raconte à Avishai, mon Chavruta, écoute, j'étais avec Baba Salé maintenant, il m'a demandé de le prendre à Ashdod, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu voir son fils, Baba Meir. Et donc on est parti à Ashdod en voiture, on est arrivé en bas de chez Baba Meir. Baba Salé m'a dit, va chercher mon fils. J'ai été chercher Baba Meir, il est descendu. Baba Salé s'est mis à la place du conducteur, Baba Meir à ses côtés, moi derrière. Ils ont fait la bise. Et une demi-heure, ils sont restés comme ça sans rien dire. De temps en temps, un petit grognement. À la fin, Bémi a fait la bise à son père Baba Salé. Il est reparti. On est reparti pour un petit vote. De là, nous apprenons que il y en a qui communiquent autrement. Il y a beaucoup d'histoires du même type aussi entre Baba Salé et le Rabbi de Lelov. Beaucoup de très belles histoires que je racontais déjà. Rabbi de Lelov, c'était un monsieur extraordinaire. Un grand, grand sadique d'Israël. Chassid de Lelov. Qui a jeûné 50 ans de suite. Il mangeait que la nuit et pas le jour. Maintenant, dans Shovavim, c'est bien de jeûner 84 jours de suite, pour ceux qui peuvent et qui n'étudient pas la Torah. D'accord? Ça répare vers la Batala. Lui, il a fait ça 50 ans de suite. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. Et comment il est mort? Il était sur son lit de mort, il est devenu tout rouge. Deux larmes, une larme de chaque œil a coulé. Il a pris sa main, il a fait comme ça, tac, et il est mort. Et voilà Shrina qui vient comme ça le prendre, Mitat Neshika, dévoilement de la Shrina, et l'âme, elle est happée par amour de la Shrina, hors du corps. On ne parle pas de gens normaux, tu vas comprendre un peu de quoi il s'agit, un autre exemple, je vais te voir de quoi il s'agit, mais simplement au niveau des jeunes, Baba Salé, très souvent, faisait Tani Tafsaka, un jeune d'une semaine entière. L'histoire, je la tiens du Rav Yitzhak Grossman. Rav Yitzhak Grossman, qui est le Rav de Migdal HaEmek, un monsieur qui fait beaucoup de kirouv. Pardon ? Yitzhak David Grossman, son vrai nom. T'as raison. Yitzhak David Grossman. Et lui, il est chassid de Karlin. Karlin, chassidout. Son père est un très grand, décédé cette année, un très grand posek, Rav Grossman ici, Israël Grossman, Zichron Levracha, Zichron Tzadik Levracha, ici à Mea Shearim, à Jérusalem. Mais le fils Rabbi Yitzhak David Grossman, bien qu'il était très proche, bien qu'il était Karlin, de Karlin, il était très proche du Rebbe de Lelov. Il aimait beaucoup et un jour, il voulait participer au Seder, soir de Pessah, du Rebbe de Lelov. Or, le Rebbe de Lelov ne recevait à son Seder que des gens mariés. Les gens qui ne sont pas mariés, ils ont des pensées, des machins, c'est pas pur, il voulait que des gens mariés. Le Rav Yitzhak Grossman était à l'époque, 18 ans, n'était pas encore marié. Mais s'il faut quand même faufiler, le Rebbe l'a vu, il n'a rien dit. Alors il est resté. Et Rav Yitzhak Grossman m'a raconté comment le Rebbe de Lelov faisait le soir de la Gada de Pessah. Très rapidement. Et il rentrait dans une transe et commençait à dire par cœur la Gada. Il se levait et commençait à rouler sur le mur. Même le Rav Grossman m'a raconté ça. Il s'est même monté dans l'avion. Il s'est levé, il m'a montré comment. Je ne vais pas vous faire maintenant devant, mais tu te mets à rouler comme ça. Dos, ventre, tout comme ça. En disant, et comme si c'était en guerre contre des forces grandioses. À la fin, il s'écroule sur son siège comme ça, épuisé, fin d'Agada, et il voit le Rav Grossman. Ichi David, Yitzhak David, en yiddish. T'es de Karlin, toi, n'est-ce pas? Alors pourquoi ton père, il fait la Agada de Pessah avec les Kavanot, les intentions kabbalistiques de Lubavitch, de Chabad? Vous êtes Karlin? Alors, oui, je sais pas. La sortie de la fête, Rav Grossman rentre chez lui à la maison et dit, papa, dis-moi, dans quelle agada tu as fait hier soir le Seder? Ah, tu sais que je suis Karline. Non, je suis sur Karline. Quelqu'un m'a donné une très belle agada de Lubavitch, de Chabad. Alors j'ai fait avec toutes les intentions de Chabad. Comme le Rebbe de Lelov à Bnei Brak voit les pensées avec lesquelles quelqu'un fait la gada de Pessah à Mea Sharim à Jérusalem. C'était des histoires en préambule pour de quel niveau nous parlons. Quand j'étais à l'armée, il y a 37 ans, non, qu'est-ce que je raconte? Il ne faut pas exagérer. Je trompe d'une dizaine. Il y a 27 ans. À l'époque, il y avait la guerre Irak-Iran, qui a fait des centaines de milliers de morts, voire peut-être des millions. Qu'en irez-vous? Et je me souviens que le général nous a dit, vous ne pouvez pas vous rendre compte le bonheur que c'est pour l'État d'Israël que ces deux grands ennemis qui sont énormes, et l'Irak, il faut comprendre qu'à l'époque, Saddam Hussein, avant la première guerre du Golfe, c'était énorme la puissance qu'il avait, que cet homme-là est en guerre avec l'Iran, ces deux ennemis d'Israël se canardent, se bousillent, se tuent les uns les autres avec les gaz. C'est une guerre qui a duré 10 ans, qui a fait des centaines, je crois, des millions de morts. Comme ça, ils ne s'occupent pas de nous, et nous, au Hachem, on est plus en sécurité. Un jour, le Rav, Elio El-Fassi, c'était le Shamash de Baba Saleh, a passé Shabbat à Méron. Il revient dimanche de Méron à Netivot. À l'époque, en voiture, c'était peut-être 6-7 heures de route. Il arrive épuisé à Netivot. Baba Saleh lui demande, où tu étais Shabbat? J'étais à Méron. À Méron? Qui est là-bas? Il dit, j'ai vu là-bas le Rebbe de Lelov. Le Rebbe de Lelov est à Méron. On part à Méron. Mais quoi, je viens d'arriver. Et Baba Saleh était un vieux monsieur. C'est pas 6-7 heures de route. Il essaie de dissuader, rien. Baba Saleh décide un truc. Et ils repartent. Ils repartent à Méron. Ils arrivent à Méron. Ceux qui savent, là-bas, tu as le portail, tu as une cour, et sur la gauche, tu as une petite chambre où il y a la police là-bas, d'habitude. Le Rebbe de Lelov est là-bas sur son lit, donc immobile, il était paralysé à la fin de sa vie, sur son lit, avec son shamash, le shamash de Rebbe de Lelov, et le Rav Yitzhak Grossman, qui me racontait cette histoire, deux fois, à un an d'écart, je lui demandais qu'il me répète dans tous les détails, vraiment, parce que c'est une histoire extraordinaire. Baba Saleh rentre, va directement voir le Rebbe de Lelov. Il rentre, et pendant 10 minutes, pas un seul mot, les deux se regardent, sans rien dire un seul mot. La deuxième fois que le Rav Grossman m'a raconté l'histoire, je me demandais comment il se regardait. Il m'a dit avec gaagouim, avec amour. Les deux se regardaient comme ça avec amour, sans rien dire. Après Baba Saleh, sans dire un mot, sort, va vers la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il y a les femmes aujourd'hui. Il s'approche à 1 mètre de la tombe, il s'arrête, sans toucher la tombe. On lui donne une chaise, il passe sur sa canne comme ça pendant une petite demi-heure, se concentre. Après il se lève, et le Rav Grossman lui tient le coude comme ça, l'accompagne. Et il sort avec Baba Saleh, et sort le shamash du Rebbe de Lelov. Alors, Rabbi Yitzhak Grossman demande en yiddish au shamash, dis-moi, quel est le Rebbe avec de cette rencontre avec Baba Saleh? Le shamash lui répond, le Rebbe m'a dit que Baba Saleh et moi, nous sommes concertés, on a décidé ensemble que ce que nos ennemis veulent nous faire, ils vont se le faire l'un à l'autre. 2-3 jours plus tard, a éclaté la guerre Irak-Iran. Comme on deux tzadikim, sans parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai encore, parce qu'il faut quand même le mérite de Rashbi, font que pendant 10 ans, nos ennemis se sont battus l'un contre l'autre. Ça, on parlait de la parole. Pourquoi? Parce que la parole a un impact. Et les forces négatives peuvent récupérer cela. Alors, il ne faut pas ouvrir la bouche aux forces négatives parce qu'elles récupèrent ce que tu dis, elles l'utilisent. J'ai deux copains qui avaient l'habitude d'étudier le matin avant le net, qu'elles se levaient à 3-4 heures du matin pour étudier, ce qui a une très grande valeur. C'est pas facile. Et bien, ils m'ont dit, chaque fois qu'on se parlait, on disait, ok, alors demain, 4 heures, ça marchait pas. Un des deux se levait pas, ça partait. Chaque fois qu'ils faisaient un clin d'œil, ça marchait. Quand tu parles, ça a un impact, c'est dangereux. Donc, ces gens de très grand calibre, quand ils communiquent deux choses, faut pas parler, faut en penser. En penser, le SRA, il n'a pas trop le droit de rentrer, que je sache, je suis pas au courant. En tout cas, la parole, elle a un impact énorme. En bien et en mal. On raconte sur le Hafetz Chaim, il faisait très attention quand il voyait un enfant, par exemple, ne pas lui dire attention, attention, ne fais pas comme ça, tu vas tomber. Parce qu'il tombait. Le Hafetz Chaim faisait attention à sa bouche, c'était une bouche pure. Quand il dit attention, tu vas tomber, boum. Donc on doit faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, au niveau des compliments aussi, évidemment, c'est très bien de dire des compliments sur quelqu'un, mais Des fois, ça peut faire de l'ayin hara, aussi, ça peut être du avak lashon hara. Avak lashon hara, c'est poussière lashon hara. Tu dis une chose bien, mais qui, de toute façon, va, il y a une très forte chance que ça va créer une réaction de lashon hara. Par exemple, je fais maintenant un cours sur un élève. Voilà, je parle et je dis maintenant en public, je prends un élève, voilà, on va prendre n'importe qui. Et lui, vous savez, lui, qu'est-ce qu'il est matmil, c'est un tzaddik. Parfait. Vous dites rien, vous regardez les uns les autres. Puis après, dans les chambres, quand Rav Shaya, il n'a pas vu comment lui, il a fait comme si hier, il a fait comme ça hier, avant-hier, d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai provoqué maintenant à la Shonara? C'est en public, quand tu parles trop bien de quelqu'un en public, il est certain qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas tellement et qui vont risquer de parler de la Shonara. Je demande à quelqu'un comment on va. Par exemple, tu n'as pas le droit d'ouvrir la discussion, par exemple, à quelqu'un qui a un métier, lui parler de son concurrent. Parce que c'est certain qu'il va parler de la Shonara sur lui. Qu'est-ce que. Comment on les a fait? Dis-moi ton ami là qui est en face de toi, qui a le magasin, qu'est-ce qu'il va te dire? Tout va très bien? Il y a beaucoup, à moins qu'il soit un type très yerishaman qui sait garder sa langue, donc la langue, elle a un impact. Maintenant, le bien, c'est bien dire du bien, mais comme je dis, pas trop, et aussi pas trop parce que tu peux aussi développer ce qu'on appelle le Aïnara, d'accord? Même sur quelqu'un, des parents sur leur enfant qui aiment beaucoup leur enfant, il est fantastique, il est bien, quelle chance, etc. Même sur nous-mêmes, quel bonheur, quelle chance nous avons, mais c'est extraordinaire la chance que nous avons, c'est vraiment extraordinaire. Dans le ciel, ils entendent extraordinaire, extraordinaire, c'est vrai que c'est extraordinaire ça, pourquoi il a tellement de chance celui-là? Bien, ouvrons ses dossiers. Et on voit, elle dit, c'est vrai, c'est vraiment trop, c'est trop, allez, enlevez-lui la bracha, quelques galères, d'accord? Donc, la parole a effectivement un impact. C'était pour répondre à la question, je crois que j'ai fait le tour, ou bien...
Alors, oui. Pardon, comment savoir justement si on fait des compliments à quelqu'un directement, ou la limite pour pas que ce soit pris par les...
Pas exagérer, quand tu dis à quelqu'un, quand j'étais extraordinaire, c'est fantastique, jamais vu, non, t'es un type bien, je t'apprécie beaucoup, c'est tout, c'est normal, c'est très très bien. C'est ce qu'il faut, nécessaire, non seulement très bien, il faut le faire. Mais quand ça dépasse la normalité, d'accord, faire trop, alors...
Qu'est-ce qui permet de dire, alors? On dit comment ça va, qu'est-ce qui devient, ça, qu'est-ce qu'on dit,
qu'est-ce qui devient, c'est dangereux. Peut-être une chance sur deux qui va dire quelque chose de pas bien sur lui. À moins que ça, c'est quelqu'un qui fait attention à sa bouche. Il est dangereux de parler des gens.
Quelqu'un qui lui est arrivé quelque chose,
Ok, tu
on demande des nouvelles, on dit des choses qu'on sait, et bam, on prend tout dans la tête. Ça arrive, ça va t'arriver où les gens ils parlent de mal, et
faire attention.
Donc plus pour plus mal, ça peut être aussi néfaste pour la personne qui reçoit, évidemment.
On a parlé de ça auparavant, donc au niveau de son kawa, de son ego, tu veux dire.
Ça, c'est que... ouais, il y a ça, il y a beaucoup ça.
Ouais, mais...
C'est-à-dire, par exemple, son travail, il est fabuleux, alors du coup, il peut... Ouais, il vu qu'il pense qu'il est fabuleux son travail, après, il peut nous dire...
À notre niveau, à nous, je pense que c'est bien de dire ça. Les gens ont besoin aujourd'hui, on est tellement faible, on est tellement... La vie est tellement dure, tellement de galères. Quelqu'un va te dire, tu sais ce que tu fais, c'est franchement, c'est rien par rapport à ce que tu pourrais faire. Tu te l'as complètement tué. dis-lui, c'est vrai, je trouve ce que tu fais vraiment, vraiment très bien, pourquoi pas. Ça donne la pêche. On est plus haut niveau. Tu prends le livre de Moussa ancien, tu vois que... Pourquoi aujourd'hui une génération a tellement de divorces et de choses pareilles? Parce que les gens ne sont pas habitués aux efforts. On est des nuls. Donc, une petite chiquenote comme ça, un petit coup déjà, on est terrassé. À l'époque, les gens étaient habitués à la dure. Alors, on éduquait à la dure. On pouvait prendre un élève, lui rentrer dedans, le casser en petits morceaux. Il tenait bon. Après, dans la vie, il tenait bon aussi parce qu'il était formé à la dure. Aujourd'hui, impossible. Si tu es dur avec un élève, si tu es dur avec les enfants, tu le ratatines. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, une configuration des mondes qui fait que, je sais pas, les gens vivent dans le coton. Alors, tu commences à le piquer au lieu de lui donner du coton. Ça marche pas. Comment tu fais aujourd'hui pour éduquer un enfant bien? Il est nul en maths. Tu amènes maintenant un 2 sur 10. Lui, t'es un nul. Il y a 50 ans, tu étais un nul. Et une fessée. Bon, peut-être que tu es mieux en maths après. Aujourd'hui, tu fais ça, tu l'as tué. C'est pas grave. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Je suis convaincu que tu feras mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, il amène 2,5. Extraordinaire. Extraordinaire! Ah, je suis fier de toi! Je suis fier de toi! T'as vu? Deux, t'es monté à 2,5. Et je viens que je t'embrasse! Ah, t'entends, maman, grand-papa, il a fait, il est monté à 2,5. Fantastique! Fantastique, ah, génial! Le gosse, il rentre dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait? il prend son truc de maths, il commence à bosser. Ça marche, ça lui donne envie. Ça, c'est l'éducation actuelle. C'est comme ça qu'on doit marcher. Rien qu'avec les encouragements. 1%, je dirais, de négatif pour 99% de positif. Sinon, tu dégoûtes. Tu brises. On est des nuls. Il faut bien se le mettre dans la tête, d'accord ? Si on a compris ça, alors... On me racontait à l'époque comment ça se passait une fois. Il y a 50 ans encore dans les chivotes, non, bien, 70 ans peut-être avant la guerre. Je crois un élève qui a fait quelque, un élève qui est devenu un des grands tzaddikim de la génération. Le Rosh Shiva l'a pris, il y a peut-être 500 élèves. Il l'a pris par l'oreille comme ça, devant tout le monde, il l'a levé, il a pris tout le couloir dedans, tout le monde passe comme ça, tac, tac, il le, par l'oreille comme ça, la fiche dehors de la Yeshiva. Et il est revenu. Et il grandit, il est devenu un des grands de la génération. Tu fais ça aujourd'hui à quelqu'un. Tu fais ça à un élève aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, non, il quitte la Yeshiva, il quitte la Torah, il quitte tout. Terminé.
Il parle sur les jeux.
Hein?
Et il parle sur les jeux.
En plus. Il faut comprendre ça, on peut pas être dur.
Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Pourquoi on baisse?
Tout simplement, il y a au niveau, je pense que tout simplement au niveau économique, le niveau de vie a beaucoup monté. Donc on est habitué à satisfaire tous nos demandes, tous nos plaisirs. On ne demande que... Quand dernièrement, j'ai monté des bonbons, moi je mange pas de bonbons, j'aime pas ça. J'ai monté des bonbons à mes enfants, à mes petites filles, 5-6 ans. Personne ne mange ça. C'est trop classique. C'est des trucs, des inventions de mettre du piquant avec de la gelée dedans et ça explose dans la bouche. J'ai pas des trucs. Rien que pour. C'est une société de consommation à fond sans cesse. On te demande qu'à faire le minimum d'efforts pour le maximum de plaisir. Donc tu ne peux pas faire d'efforts, tu n'es pas habitué à ça. Donc tu vois, à quelqu'un qui est né dans le coton, tu ne peux pas le demander de se battre.
Je comprends pas si. Comment est-ce qu'on peut dire que chacun a le potentiel de devenir Moshe Rabbeinu alors qu'on vient d'avant l'année, on n'a rien à voir avec le niveau d'avant. J'ai entendu ça.
Si quelqu'un arrive à son 100% de son potentiel, alors on lui donne des potentiels supplémentaires. Comme tu as ton âme, toi, Eddy, qui a un potentiel 100%. Le jour où tu arrives à ton 100% de potentiel, on te donne un supplément d'âme, d'un tzaddik. Pas Moshe Rabbeinu. Un petit tzaddik. Donc tu vas arriver au 100% de ce potentiel qu'on a du tzaddik, alors tu donnes un tzaddik supplémentaire. Tu peux recevoir comme ça, des Ibur Neshama, jusqu'à 10 tzaddikim. Quand tu arrives à 10, on t'enlève le premier, on te donne un 11e, on t'enlève le premier. Tu peux avoir que 10 potentiels de tzaddikim. Et tu montes comme ça jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça ne nous concerne pas. Allez, va que nous, on fait notre potentiel est à nous qu'on finisse. On est tranquille.
En quoi le fait de parler en négatif sur quelqu'un aussi, ça va vraiment avoir une influence sur lui?
Ouais. Ouais. Quel genre de discours négatif? C'est un imbécile, par exemple.
Genre, c'est un voleur, etc. Est-ce qu'il va vraiment venir à voler? Ou même si c'était pas le cas au départ, ça peut vraiment influer?
La langue, la voix, elle a un impact. Elle a un impact. C'est une onde négative. Quand quelqu'un porte un jugement négatif sur quelqu'un, c'est interdit par la Torah. C'est permis s'il n'y a pas de doute. Il a volé, tu as vu voler, tu dis c'est un voleur. Bon, c'est permis d'approcher certains critères, s'il y a une toilette, etc. S'il y a une utilité, certains critères. Mais tant que tu n'es pas certain, il y a un doute. Il y a une mitzvah de Betzedek Lishpot Amitecha. Quand tu vois quelqu'un qui fait une chose, tu le vois arriver maintenant en retard à la prière. Ok? Alors, on va dire, tu as 50% de chance de le juger favorablement. Il était à un mariage 14h du matin, il a accompagné le Khatan Akala, il s'est occupé des mèches tous les cadeaux, et il vient ici à la prière à 7h. Kolakavod, t'es arrivé en retard, 5 minutes. Bon, ça va. C'est un louange. Tu peux dire au contraire, non. C'est-à-dire à 9h au lit, puis c'est un fainéant, il n'est même pas capable d'arriver à l'heure. Tu ne sais pas. La Torah t'oblige, si le doute il est à équivalence, tu as autant de chances de dire en bien qu'en mal, la Torah t'oblige à juger en bien. Juger, même sans rien dire, c'est dans la tête.
Enfin, personne ne sait que...
On ne sait pas. Ouais. Mais tu es obligé, justement, vu que tu ne sais pas. Et tu as les deux côtés qui sont à égalité, tu peux le juger négativement ou positivement, la Torah t'oblige, c'est une mitzvah assez de la Torah, de le juger favorablement, positivement.
Donc tous nos hommes politiques, on doit les juger positivement aussi.
Maintenant, je n'ai pas fini. Maintenant. Maintenant. Si la balance, le côté négatif, est plus grand que le côté positif. 80%, c'est un fainéant, pour 20% qu'il a aidé hier soir tard quelqu'un. Tu as le droit de le juger défavorablement, négativement, mais c'est une mesure de piété de le juger favorablement. Ça, on parle pour un homme normal, cachère, un bon juif. Si c'est un tzaddik, même si la balance est beaucoup plus grande du côté négatif, tu es obligé de le juger positivement. Si c'est un rachat, comme les personnes que tu cites, alors même si la balance est beaucoup du côté positif, tu es obligé de le juger négativement. Tu l'enfonces.
On se base sur des médias parce qu'on n'a rien vu, on ne voit rien, on connaît. On se base sur quoi? Sur ce qu'on entend dans les journaux dans...
En plus, on ne sait pas qui est rachat.
Bon, on va dire, de toute façon, dans le cadre de la Torah, quelqu'un qui se moque de toute notion toraïque. Et ça, c'est clair, il ne fait pas kippour, il mange du porc, il mange du lapin, il fréquente des filles, comme c'est le cas pour beaucoup de ces personnes dont tu parles.
Mais ça, on ne le sait pas, en fait.
On sait.
On suppose.
Moi, je sais. Moi, j'avais un copain
vous
qui...
Vous avez le droit, mais nous, on n'aurait pas le droit.
Non, non, mais ces gens-là, on sait bien qu'ils ne font pas kippour.
Pas tous.
Non, je parle des, on va dire, de... Okay. Ou le Merté Saban, d'accord, pour dire des noms. D'accord. Et avant, qui t'avait? À vous le maire, j'oubliais déjà l'autre tordu qui avait avant. Sharon et sa bande. Et avant Sharon, qui t'avait? Bon, depuis 47, tu prends tout ça, c'est tout ça même. Peut-être Begin, c'est le seul qui est un peu religieux, d'accord? Les gens qui n'ont rien, quand il y a eu Camp David, je me souviens, c'était il y a 10-15 ans, Camp David, il y avait les. Comme à la police maintenant, il y a eu Camp David.
C'est quoi ça? Camp David?
Voilà, c'était à Camp David, Camp David, Camp David en hébreu. Alors. Donc il y avait la délégation américaine, arabe et israélienne. La délégation américaine, il y a eu quelques membres de la délégation qui ont demandé des repas cachers. La délégation israélienne, personne ne demandait de repas cachers. Alors, il ne faut pas faire de kitrouk sur Amisa, il ne faut pas faire de parler mal sur Israël, c'est très mauvais. Mais nous considérerons que ces gens-là ne sont pas Israël, ils sont Erevrav. D'accord? Ce sont les dominateurs du Erevrav. C'est à cause d'eux que le Machar ne vient pas. C'est clair. Aujourd'hui, ils éduquent des millions de juifs à ne pas croire à la Torah. Ils sont responsables de l'éducation, responsables des médias, responsables de tout cela. Or, les messages qu'on entend ici en Israël n'est pas un message non seulement pro-religieux, même pas neutre. Il est anti-religieux de façon très très claire. Donc, les gens qui sont à la tête, je n'ai pas besoin de lire les journaux pour savoir que ce sont des gens qu'on peut considérer comme rachats. Donc, même s'il y a un côté positif qui est plus grand que négatif, mitzvah de l'enfoncer. Mais attention, on parle de vrais Rechaim. La majorité du peuple, qui sont tout simplement ce qu'on appelle Tinoch Shishupu, c'est comme quelqu'un qui a été pris dans le couvent quand il était petit, il ne sait même pas qu'il est juif, et il ne fait rien de Torah. On considère comme complètement non responsable de ses actes. On considère aujourd'hui, comme ça écrit le Hazon Ish, que la majorité, tous les juifs qu'on connaît aujourd'hui qui sont non religieux, ce n'est pas de leur faute. C'est son arrière-grand-père qui a commencé à quitter la Torah, lui a reçu une éducation non religieuse à l'école, et donc voilà, il reproduit. Ouais, Rav Yechiv, il est plus dur là-dessus, mais...
Rav, qui va diriger à l'époque messianique.
Donc, pré-messianique.
Pré-messianique, qui va diriger à l'époque pré-messianique. On parle de... On est sûr que le Rav Yechiv, ce n'est que ceux qui dirigent le pays.
Non, non, non.
Et pas seulement ceux qui dirigent, je dirais, au niveau toraïque. Niveau religieux.
Ah, il se peut que non aussi, bien sûr. Bien sûr. Parce que... Il y a 5 sortes de Erevrav. Alors, parmi ces sortes-là, tu as donc ceux qui ont le pouvoir politique. C'est certain que c'est les gens qui ont le pouvoir politique. Mais tu en as aussi ceux qui font les choses pour leur nom. Anche Shem. Et tu peux avoir... je ne connais pas, je ne vais pas dire des noms, je ne vais pas les faire. Qui sommes-nous pour aller? On ne peut pas scanner les gens, d'accord? Les gens, c'est très clair, comme ces gens dont je viens de vous parler, qui sont des dirigeants, qui ont poids politique, et ce sont des vrais voleurs. C'est marqué clair Hamas, des voleurs. Ils te prennent interdit, ils la donnent aux Arabes, enfin, toute la journée. Ça, on voit que. Je ne sais pas combien de dossiers de corruption, tu vas me dire, tu lis les journaux, combien de dossiers de corruption il y a sur Ulmert. 37 dossiers de corruption, je ne sais pas. Et puis les bazars d'un après l'autre, parce que c'est tout corrompu. Et les seuls qui ont osé ouvrir la bouche, ils sont exclus de... On les fait démissionner de leur job. Donc c'est tout corrompu, on le sait. Il y a d'autres RFRAV, comme je dis, ce n'est pas ceux qui ont le pouvoir, mais les gens qui font, même le Zohar est des gens religieux, qui offrent des Sefer Torah, qui offrent des bâtiments de Shiva pour leur nom. Tout ce qui est important, c'est leur nom. Alors c'est un rêve beaucoup moins grave. Le Zohar dit que la Géoula dépend du cinquième, on appelle les Amalekim, ceux qui ont le pouvoir politique. Mais ceux-là, les Anshechem, c'est des gens qui font partie du RFRAV aussi, ils peuvent faire tchouva. Chacun du RFRAV peut faire tchouva, c'est plus dur pour lui, mais il peut le faire tchouva aussi. Et c'est tout à fait que des gens religieux qui font partie du RFRAV, absolument.
Même des gadol?
Non, un gadol, c'est un gadol.
Non, mais c'est-à-dire, on va dire, il y a gadol, et il y a aussi énormément de grands raves reconnus dans le monde.
Reconnu par qui?
Aujourd'hui.
Non, c'est normal. Les confrontations, c'est tout à fait... Les confrontations qu'on a aujourd'hui sont rien par rapport à ce qu'il y a eu durant l'histoire juive. Beth Shammai et Beth Hillel. C'est une guerre énorme. C'était une guerre énorme. La Mishnah raconte Rabbi Tarfon a voulu faire une chouma. Il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que c'est marqué en fait Kirat Shema, Beshor Becha ou Vukumecha? Lorsqu'on se couche et lorsqu'on se lève. Beth Hillel disent au moment où on se couche et au moment où on se lève. Beth Shammai disent non, en se couchant, en se levant. Le soir, tu dois faire coucher, tu te mets un peu sur le côté, tu fais comme ça qu'il y a le chemin. Et le matin, tu le fais debout. Rabbi Tarfon a voulu faire comme Beth Shammai, Chumra. Je peux le faire comme Beth Hillel le soir et en plus, je me mets couché, comme ça, je gagne les deux avis. Eh bien, la Mishnah dit, il a dit qu'il a, il trahit, il a failli, il s'est fait attaquer par des bandits, il a failli mourir. Au Beth Midrash, on lui dit, bah, t'as bien, heureusement, tu as de la chance parce que, effectivement, tu t'es itraïf benavcho, tu t'es rendu coupable de mort par le fait que tu as osé faire comme Beth Shammai. Enfin, on a réussi à calmer la grande discussion et que maintenant, la halakha est tranchée comme Beth Hillel. Si maintenant, quelqu'un commence à vouloir faire une chumra comme Beth Shammai, les élèves vont dire, alors, il y a de nouveau Beth, on peut aussi faire comme Beth Shammai et tout va recommencer. Regarde à quel point il a failli mourir à Beth Tarfon, c'est pas un petit, c'est énorme qu'il était. Parce qu'il est rentré un peu, il a pris part un peu dans cette marloquette terrible qu'il y a eu entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait des marloquettes terribles dans le peuple d'Israël. Il y a 300 ans, il y a eu une marloquette entre le Yabetz et le Rabbi Eibshitz sur les talismans. Est-ce qu'on peut utiliser des talismans, oui ou non? Mais ça flambait l'Europe, c'était terrible ce qui s'est passé. Entre Gaon de Vilna et le Balatania. Aujourd'hui, c'est... rien, la gagnotte. Bon, messieurs, alors que Dieu nous aide à garder notre bouche en sainteté... car c'est l'ustensile le plus important que nous avons. Et celui qui garde bien sa bouche, alors sa bouche devient pure, elle a un impact. Alors Ben Sion avait un impact de brachot extraordinaire. Extraordinaire. Il a dit un jour à son fils, ça fait 38 ans que je n'ai pas sorti un mensonge de ma bouche. Donc quand tu as une bouche qui est vraie, ça monte là-haut. Ce que tu dis est vrai, vrai, donc on doit le réaliser. Quand c'est un mensonge, réel, vrai égale réel, mensonge égale irréel. Quand tu mens, tu es dans l'irréalité. Alors ta valeur, ta bouche n'a pas beaucoup de valeur. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.